envie d'entreprendre, l'actualité de l'économie locale avec jour8.com.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de la 4e saison d'Envie d'entreprendre qui va être consacré cette fois-ci au commerce 2.0. Ça va être un numéro un petit peu spécial. D'abord parce que mon comparse Jean-Marc n'est pas là aujourd'hui. Il est parti explorer un autre marché. Et d'autre part parce que nous allons faire la retransmission d'un certain nombre de sons enregistrés lors de la conférence de la rencontre économique et gastronomique qui a eu lieu au Château Pesquier le 9 mai. Autour de ce thème du commerce 2.0. Le commerce, c'est une des plus vieilles activités au monde. Ça a commencé peut-être bien dans une caverne quand le premier homme des préhistoriques s'est dit qu'il allait échanger un os de mammouth contre un fémur de tyrannosaure. Et c'est une activité qui est toujours centrale dans nos vies, même si elle change, elle évolue beaucoup avec Internet, avec bien entendu la grande distribution. Le commerce de proximité reste quand même au centre de la pratique du commerce. Parce qu'on a toujours besoin d'un commerçant qui est à côté de chez soi, parce qu'on a besoin d'un commerçant que l'on connaît, avec qui on a des relations directes, qu'on voit de temps en temps, à qui on dit bonjour le matin en passant. Et cette évolution, l'évolution en permanence du commerce est en train de s'accélérer aussi avec le temps, comme pour d'autres métiers, comme pour l'agriculture par exemple. Et nous avons voulu donc explorer lors de cette rencontre les différents aspects, avec notamment les concept stores, mais aussi avec tout ce qui est justement la place des réseaux sociaux et d'Internet. Avant d'explorer ce petit dossier, on va faire une petite brève sur la campagne de la cerise. On est au mois de mai, donc la cerise, c'est parti. C'est parti plein pot avec l'IGP Coteaux du Ventoux qui va donc l'année prochaine pouvoir se lancer avec cette marque Coteaux du Ventoux et qui fait sa dernière campagne à blanc. Et puis la cerise Montvenasque qui a démarré sa campagne le 9 mai, une campagne qui est prometteuse, qui est vraiment extraordinaire avec des arbres, je les ai vus de mes yeux, ils sont pleins à craquer de cerises, de très belles cerises. De nouvelles variétés vont rentrer en production cette année, il faut le faire, donc il est déjà là depuis un bout de temps, mais Regina et puis aussi Frisco et Fertile. Il y a vraiment là aussi dans ces métiers de l'agriculture et de la production arboricole de vrais changements, de vraies évolutions. Et c'est toujours un plaisir de voir des entrepreneurs qui se creusent la tête pour faire un peu avancer le schmilblick différemment. Nous allons donc passer à notre dossier après une pause musicale.
Oh,
Bien, pour commencer ce dossier sur le commerce 2.0, nous allons écouter Corinne Guyon, qui est la créatrice et la gérante de la Maison de Fogas, qui est rue des Fourmisseurs à Avignon. C'est un lieu absolument atypique, dont je vous conseille la visite. Et je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse vous expliquer elle-même ce que c'est et ce que n'est pas la Maison de Fogas à Avignon.
Donc, Maison de Fogas, c'est un hôtel particulier qui date du XVIe siècle et qui était ma maison d'habitation. Et l'idée, c'était d'ouvrir cette maison qui fait 1200 m² au public. Bon, la chance de cette maison, c'est qu'elle se trouve en plein cœur d'Avignon, dans la zone piétonne d'Avignon. Donc, effectivement, on ouvre directement sur le commerce de proximité. Et c'était de créer tout de A jusqu'à Z. Et au début, c'était plus, j'allais dire, c'était dans un cadre qui était un peu associatif au début, avec des artistes et des artisans d'art que je voulais héberger. Et puis, de fil en aiguille, j'ai ouvert un atelier culinaire. Et de l'atelier culinaire, j'ai ouvert un restaurant du lundi. Et puis, du restaurant du lundi, c'est devenu un restaurant tout court. Et puis, je reçois de plus en plus de touristes. Et j'ai créé, donc... des choses assez atypiques de tourisme, de cours de cuisine un peu particuliers. Et en fait, j'ai recréé un petit monde. À côté de ça, donc, je fais des événements réguliers et je reçois des expositions tous les deux mois environ. Et c'est un lieu qui vit en permanence. C'est le but. Hein. C'est une maison, ce que j'appelle moi une maison ouverte. C'est un concept que j'aurais voulu établir avec d'autres, ce qui se fera peut-être d'ailleurs dans d'autres villes. Ou dans d'autres pays, puisqu'il se trouve que ce que je fais, ça existe ailleurs. On n'est jamais tout seul à créer. En fait, on se rend compte que des gens qui viennent du Brésil ou ailleurs vous disent « Une maison comme la vôtre, moi j'en connais une, c'est un peu dans le même principe. » Et en fait, ça se fait tout seul. J'ai du mal à expliquer ce qu'est ma maison, et c'est toujours ce que je dis. J'ai dit « Il faut venir pour voir et comprendre comment on fonctionne. » C'est très intuitif. C'est un moule qui est très intuitif. Parce que c'est un lieu, en plus, à Avignon, on a la chance d'avoir beaucoup de passages. Et c'est un lieu de passage, donc ça peut être des artistes de passage qui vont jouer un bout de piano, un morceau de piano dans le bar. Ça peut être du théâtre pendant le festival. Je ne sais jamais tout à fait, trois mois avant, ce qui va se passer. Puis j'attends des rencontres. Comme là, j'ai rencontré une chanteuse extraordinaire, qui est une chanteuse parisienne, qui est en train de monter et qui fait penser à Françoise Hardy, d'ailleurs, et qui va sûrement venir avec sa série de chanteurs, peut-être en résidence, parce que j'ai quatre appartements meublés de tourisme, hein, qui font de 60 à 120 mètres carrés. Et là, je suis en train de créer un dortoir pour artistes, hein, donc qui va pouvoir héberger 6 à 8 artistes qui seront soit en résidence, soit de passage. Après, le tout, c'est de créer une économie créative, comme on dit, puisque effectivement, c'est assez lourd à monter et ça demande beaucoup d'investissement et l'âme, c'est toujours ce qui est un peu dangereux, c'est que j'aimerais bien que je transmette cette âme, parce que seul dans ce concept-là, c'est très compliqué. Donc petit à petit, j'ai toute une équipe qui finalement, c'est une maison. Donc, mon équipe, l'équipe qui travaille avec moi, sont totalement impliquées. On dirait une grande famille. Par exemple, j'ai créé un tour qui s'appelle « Maman est en haut qui fait des gâteaux et papa est en bas qui coupe du bois ». Et je reçois des Américains qui apprennent à faire des choux, des fougasses, qui redescendent, qui font des choses un peu différentes. Et j'en avais 25 ce matin et ils partent toujours avec le sourire et ils sont heureux et ils trouvent que pour eux l'image de la France c'est ça. Et moi c'est la mienne l'image, donc je suis contente de véhiculer cela. Donc après,
est-ce que tu pourrais nous raconter cette histoire avec ce groupe de Français qui sont venus un peu par hasard et qui tu as fait une proposition étonnante, ils ont beaucoup apprécié?
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que chez vous, chez moi, c'est bien, quoi. Ou inversement. C'est-à-dire que d'avoir un hôtel particulier à soi toute l'année, c'est un peu compliqué. Mais par contre, de l'avoir pour une soirée ou pour deux jours, c'est toujours mieux. Et donc, il y a un couple qui est venu manger et puis qui me dit « Oh, mais on aimerait bien faire quelque chose ici, parce qu'on fait souvent des gens de rallye, on se retrouve de la France entière. » Et on cherche un lieu. J'ai dit, moi, je veux bien, mais alors si je l'organise, moi, c'est-à-dire que je le fais, et je leur ai demandé des photos, donc j'en ai mis partout. J'ai mis des photos partout à eux, dans la maison, c'était la leur, quoi. Donc, en fait, ils sont arrivés, ils avaient l'impression d'être chez eux. Et c'était très sympa. C'était vraiment très sympathique. Mais demain, ça peut être... organiser une fête avec que des meringues, ce que j'ai fait, parce que voilà, parce que c'était quelqu'un qui aimait les meringues. J'ai dit, bon, on va faire que des meringues roses partout. Et il y avait des meringues roses partout. Et en fait, c'est de l'événementiel, mais c'est toujours... c'est absolument jamais guindé, parce qu'en fait, c'est ça le but. Moi, à l'étranger, certains m'appellent un arty bohémien open house. Donc, je trouve que ça correspond bien, parce que c'est pas fixe chez moi. Rien n'est acquis. Je sais très bien que demain, je peux fermer la porte, parce qu'il faut pouvoir tenir, parce que c'est compliqué de tenir des lieux comme ça. Et c'est pas toujours... C'est quelque chose qui est en soi. C'est-à-dire que moi, je donne beaucoup, beaucoup de mon temps aux gens qui sont là, et je suis toujours là à essayer de faire que le petit plus qui fasse que quand les gens partent, ils partent avec le sourire. Donc c'est vrai que c'est toujours un moment magique. J'ai des brunchs le dimanche, j'ai l'impression que c'est une grande famille, j'ai 60 personnes qui mangent dans mon jardin, et j'ai vraiment l'impression que c'est quand même mon jardin. Et je pense qu'ils ont l'impression d'être chez moi, et les gens se retrouvent. Souvent, ils se retrouvent d'un dimanche à l'autre. Et c'est pour ça que c'est un concept, à mon avis, qui est... je pense que c'est un concept qu'on pourrait dupliquer. Parce qu'on a tous autour de soi des grandes maisons. Il y a souvent des lieux comme ça qui sont difficiles de garder parce que ce sont des maisons qui sont lourdes d'entretien et qui nécessitent quand même un gros investissement. Et je suis persuadée qu'on pourrait recréer un peu ce type de maison dans des endroits différents. Et je suis persuadée que, d'ailleurs, j'ai appris récemment qu'à Nîmes, un monsieur qui avait un très grand hôtel a dit « Moi, j'en ai marre et j'ai acheté une maison comme la vôtre et je veux faire à peu près la même chose. » Donc, on n'invente rien. C'est juste que petit à petit, on transforme une forme de commerce. Parce que dedans, au fur et à mesure, je vais tout vendre. Parce que je sais que là, je me suis dit, oh, il me manque la boutique. Voilà, je regardais la boutique d'ici. J'ai dit, oui, c'est vraiment nécessaire d'avoir une boutique, parce que vous pouvez tout mettre. En fait, vous mettez votre âme. Un concept store, c'est ça. Vous mettez tout ce que vous aimez.
Voilà une présentation d'un concept store vraiment pas comme les autres à Avignon, la maison de Fogas. On va passer maintenant à un concept store à Carpentras, qui est cette fois-ci tenu par Karel et François Drapier. Ils sont installés rue Porte d'Orange, donc à Carpentras.
Alors Impression là, historiquement, était un magasin qui se trouvait sur la route d'Avignon, qui proposait donc un échalandage de tissus et de décorations. Nous en avons fait l'acquisition en 2007, et Karel a démarré effectivement seul l'activité avec une couturière, puis évidemment il y avait aussi une partie atelier pour tout ce qui était confection. 2007, bah, c'est juste un peu avant la crise de 2008, donc les choses se sont un peu compliquées à partir de ce moment-là, avec effectivement, on a senti chez le consommateur la perte d'achat plaisir, d'achat impulsif sur des petits prix, c'est-à-dire qu'avant on achetait de la déco, on rentrait, on achetait une pièce à 10-15 euros, on achetait des bougies, on achetait des choses comme ça. Et tous ces petits achats plaisir, d'impulsion, qui faisaient partie de notre chiffre d'affaires, se sont rapidement érodés. À ça s'est ajouté un autre fait, c'est sur la zone du Pontet, on l'a fait face à la montée d'IKEA et de la zone Vulbert. Donc deux aspirateurs conséquents à consommateurs en décoration, plus un an ou deux ans après aussi Maison du Monde, qui a établi le plus gros Maison du Monde de France avec plus de 8000 m². Donc imaginez bien que Impression là, avec ses 120 m² face à IKEA et Maison du Monde, ne représentait plus grand-chose. Donc on a pallié à ça déjà par une chose, on s'est dit. On était sur une zone de périphérie de centre-ville. Donc, ni en centre-ville, ni dans une zone commerciale, le cul entre deux chaises. Donc, en fait, stratégiquement, très mauvais aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. On s'est donc rapproché du centre-ville. On a pu faire l'acquisition d'un joli lieu sur le centre historique de Carpentras, près de la Porte d'Orange. Et à partir de là, si vous voulez, on a redéveloppé, on va dire, le concept du magasin. Qui était initialement effectivement décoration et tissu d'ameublement. Et là, on est parti sur un troisième pôle qui était effectivement le prêt-à-porter. C'était toute une activité que Karel souhaitait absolument développer, puisqu'elle était initialement intéressés par le prêt-à. Donc ce troisième métier est venu dans la boutique. Il est venu aussi par passion, mais aussi par nécessité économique. Le concepteur, vous recherchez aussi des zones de croissance pour votre établissement. Donc vous ne restez pas, quand vous parlez des deux pieds qui restent bien ancrés dans le sol, aujourd'hui je fais un métier et je reste campé dans ce métier. Non, non, il faut faire évoluer les choses en fonction des besoins, des marchés et des ouvertures. Donc là, on s'est lancé effectivement dans le prêt-à-porter. Et le prêt-à-porter, on l'a lié au premier blog. Ouais. Donc le blog est né à partir un peu avant, vers 2011, hein, un peu avant qu'on arrive sur le centre-ville. Et à partir de ce blog, effectivement, on a commencé à développer une clientèle extérieure à Carpentras. Et cette clientèle, en fait, très rapidement, nous a demandé, nous a sollicité, nous a dit « Mais pourquoi aujourd'hui vous ne faites pas un site web ?» Aujourd'hui, on est obligé de vous appeler à des heures d'ouverture. Moi, demain, aujourd'hui, j'aimerais faire mon shopping tranquillement le soir à 22h, quand mes enfants sont couchés. Pouvoir commander en ligne, pouvoir avoir une solution de paiement sécurisée et recevoir mes produits à la maison. Donc c'est un peu à partir de là, en fait, de ces différents contacts qu'on a eu avec nos clients extérieurs à Carpentras, que le site web impression1.fr est né. Aujourd'hui, il fait partie entière de notre activité et construit complètement notre chiffre d'affaires. Il est devenu une seconde boutique, puisque le développement d'un site web demande un temps conséquent de travail. Beaucoup de gens fantasment sur le web en disant qu'ils ont ouvert une boutique, on met ça en ligne, je mets 4 photos, 4 produits, et puis ça va tourner. Non, c'est un travail qui est vraiment conséquent. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est à deux et que j'ai rejoint Carrel en 2014 dans l'aventure impression1.fr. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'entreprise est partagé. On est maintenant arrivé à 50%. Le web rapporte 50% du chiffre de la boutique. Et on a depuis 3 ans maintenant, on a une croissance à 2 chiffres, et 3 même maintenant sur le web.
Soulève, peut déployer toute une armée.
Après ce titre de Christophe Willem, nous allons revenir à notre débat économique sur le commerce 2.0. Nous avons entendu juste avant la présentation du commerce du concept store Impression Lin à Carpentras. Nous avons demandé donc aussi bien à Corinne Guillon qu'à Carrel et François Drapier quels étaient les différents éléments qui leur paraissaient importants dans ce type de commerce. Et la première chose qu'ils ont évoquée, que notamment Corinne Guillon a évoquée, c'est l'importance de mettre en place vraiment des synergies entre tous les commerçants et tous les acteurs, au-delà même des commerçants, qui peuvent intervenir dans un centre-ville.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les nouveaux commerçants ne sont pas les commerçants d'hier. Déjà, au sein même de mon association, dans le bureau, nous sommes tous des commerçants qui sont devenus commerçants, mais qui n'étaient pas avant. Donc il y a un directeur de clientèle de Publicis, par exemple, une scénographe. Donc le directeur de Publicis a un magasin de saumon et de caviar, voilà. Donc il en a eu marre. Et donc la scénographe a un magasin de cartes à jouer. Au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que le commerce mute. Donc forcément, les commerçants qui sont à l'intérieur sont des gens qui viennent d'horizons totalement différents. Donc ils sont beaucoup plus à même de savoir vers quoi on tend ou ce qu'on a envie. Parce que si on a décidé d'être commerçant aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, on a besoin du contact avec les autres. Donc c'est vrai que ce dont on se rend compte régulièrement, c'est que tous les commerces qui arrivent, moi, régulièrement en ce moment à Avignon, comme il y a comme partout, ça ouvre, ça ferme. Il y a toute une catégorie de nouveaux commerçants que j'apprécie tout particulièrement, qui sont extrêmement ouverts à toutes les propositions qu'on peut faire pour démultiplier les actions et des projets qui sont parfois loufoques. Là, on est en train de monter une disco night party tous les deuxièmes vendredis du mois. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, ça se faisait à Cape Town, et ça se fait encore, visiblement. Et en fait, on peut danser dans les rues, dans les magasins, et finalement, on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas ça? Donc là, je suis en train, on fait une avant-première vendredi 12, et puis après, on le refait, donc on a déjà donné toutes nos dates. Et le but, quand on parle de synergie, c'est par exemple, je me disais, bon, c'est bien de faire ça, mais ça serait bien de le faire avec une entreprise locale. En parrain ou en partenaire. Et donc, comme il y avait une entreprise que j'aime beaucoup, parce que j'en vois beaucoup, c'est du PAC, donc PAC à l'eau, et qui est une entreprise avignonnaise à la base. Bon, à part du vin, parce que j'aime aussi quand même, pour pas exagérer. Et du coup, j'ai appelé PAC. Et PAC a dit, bah oui, pourquoi pas, ce serait pas mal. Et donc, en fait, on fait Disco Night Party PAC. PAC Disco Night Party. Donc on va avoir des verres avec voilà les Fiji Pike plus au cœur d'Avignon, on va se mettre à des coins de rue. On sait pas du tout. En fait, on sait pas comment vraiment ça va se passer. La seule chose qu'on sait, c'est que en l'ayant mis sur les réseaux sociaux, très vite ça fait boule de neige. Donc après bon, c'est à nous de saisir la balle au bond, mais les gens sont prêts à faire des choses comme ça. Donc en fait tout le monde a dit on va sortir son pass def et ça peut être sympa comme ça. Et puis ça peut créer un début de quelque chose. Hein. Moi j'ai créé la girafe qui a fait beaucoup de bruit à Avignon. Voilà, donc c'était un événement autour de Noël où en fait le Père Noël, suite au réchauffement climatique, ne peut plus descendre avec les rennes, vous comprenez bien. Donc en fait il a choisi les girafes. Et j'ai entraîné avec moi une centaine de commerçants sur ce projet fou du changement. Alors là, c'est le côté, j'allais dire, à la fois positif et négatif. C'est-à-dire que dans les médias, sur le local, ça a été très mal perçu. Et par contre, au national, ça a été très bien perçu. Donc tous les gens qui venaient de l'extérieur ont trouvé que c'était une idée géniale. Et tous les locaux se sont dit, mais on nous enlève les rênes, bientôt on va nous enlever Noël et ça ne va plus. J'ai dit, mais non, ça n'a rien à voir. Mais je pense que c'était un peu rapide. Ça, c'est les erreurs. Je pense que c'est des erreurs qu'on commet tous quand on essaie de monter quelque chose qui nous paraît un projet un peu fou, mais qui est réalisable. Mais par contre, j'ai eu tous les artistes avec moi et j'ai toujours des clins d'œil. Cet été, Olivier Pie, qui m'a dessiné une belle girafe, a un spectacle qui s'appelle La tristesse des girafes. Au fur et à mesure, finalement, ça a créé quelque chose qui a un lien. Ça resserre des liens. C'est-à-dire qu'en fait, les girafes font de la résistance, quoi. Donc, et dans ce lot-là, vous avez et des commerçants, et des particuliers, et des artistes. Et c'est pour ça, c'est ce que j'avais créé avec la ruche il y a 5 ans et que j'ai eu du mal à mettre en place. Mais qui est plus aujourd'hui, on est plus dans l'air du temps aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, j'avais dit, mais on mélange tout le monde, les particuliers, les entreprises, les commerçants. Puis on m'a dit, mais non, ça ne marchera jamais. Et ça a commencé à marcher, sauf que les clivages ont fait que chacun a voulu reprendre sa place, alors qu'en fait, il n'y avait aucune raison à ça. Et moi, je crois aux synergies comme ça. Et c'est ce que je disais à Pierre-Nicolas. Je dis, moi, j'ai un nouveau métier, c'est synergéticienne. Voilà, mais parce que je trouve que... Voilà. Et après, j'ai appris que ça s'appelait du marketing territorial, finalement. Donc, qui fait du marketing territorial et tannane sans le vouloir. Mais c'est vrai que, finalement, j'ai testé plein de choses et je me rends compte que ça marche.
C'est aussi encore un néologisme anglais, mais on parle d'un mouvement qu'on appelle le bottoms up, ce qui veut dire lever ses fesses, hein, pour être poli. C'est un groupe de gens qui se réunissent, au lieu de se dire bon, on va le faire, on le fait maintenant. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se lève et qui dit bah, moi je vais faire ça.
Ah ben c'est exactement ça.
Hein, c'est ça.
Ah oui, c'est ça. Et puis il y a toujours quelqu'un qui réplique en disant mais moi je peux faire ça. Et c'est très étonnant parce qu'en fait ces synergies-là, alors j'ai appris que c'était normal, mais je n'arrive pas à l'expliquer. C'est-à-dire que plus vous attirez des gens. Et plus vous êtes dans cette synergie-là, et plus il y a des gens qui rentrent dans votre groupe. Et ça se fait naturellement. C'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi, il y a quelqu'un qui va franchir la porte en disant « Mais moi, je suis graphiste, je peux vous aider à faire ça », et ainsi de suite. Et finalement, on crée des choses qui sont pas mal. Après, voilà, avec toujours des écueils un peu particuliers. Mais d'abord, c'est très enrichissant pour tout le monde. Je trouve que c'est passionnant. Et je pense que... Pour nous, parce qu'on est pas mal à penser ça, c'est le commerce de demain. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut travailler différemment Peut-être que nous sommes des centres commerciaux à ciel ouvert, mais culturellement différents. Après, je crois que chacun peut amener sa pierre à l'édifice. Hein.
Au-delà de ces synergies évoquées ici par Corinne Guyon, les nouveaux concept stores et les nouveaux commerces, les commerces qui essayent d'innover et de réinventer, j'allais dire, non pas l'eau chaude, mais le métier du commerce, s'appuie beaucoup aussi sur l'identité, en se séparant et en se différenciant des grandes surfaces et des franchises qui sont sur des discours relativement anonymisants, en redonnant à la fois de l'identité, mais aussi cette bonne vieille relation humaine qui reste aussi la vraie grosse plus-value du commerce de proximité par rapport à l'Internet ou à la grande distribution.
Dans nos commerces, et qui est hyper important. De toute façon, on le voit bien, on le voit dans une ville comme Avignon, peut-être plus qu'ailleurs, parce que vous avez une moitié de rue, vous avez une grande rue, et vous avez d'un côté, vous avez essentiellement les franchises, et de l'autre, vous avez tous les indépendants. Pendant un temps, de toute façon, on était un peu boudés, parce que tout le monde allait de ce côté-là. Et puis, je vois l'évolution, et petit à petit, on voit des gens se perdre au fur et à mesure de notre côté. Et puis vous entendez beaucoup de gens dire « Ah bah oui, mais ça on l'a partout ». Donc effectivement, nous on vient plutôt de votre côté parce qu'il y a des identités différentes. Et c'est ce qui va faire, à mon avis, la différence demain. Après, c'est vrai qu'on n'évitera pas non plus les problèmes économiques parce qu'aujourd'hui, s'il y a tant de désertification de centre-ville, c'est que les loyers sont trop chers. Donc peut-être ce qui se passera et ce qui est en train de se passer au niveau des artistes, parce que moi je le vois régulièrement, c'est des regroupements. Parce qu'en fait, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, les nouvelles galeries, elles existaient. Hein. Donc en fait, on est en train de recréer des galeries différentes. En fait, il y a des regroupements. Alors essentiellement, en ce moment, c'est des regroupements d'artistes, hein, parce que vous avez dans beaucoup de villages ou de villes, vous avez des artistes qui se regroupent et qui créent des collectifs dans des boutiques. Mais je crois que dans pas longtemps, on va avoir des regroupements de commerçants dans certains lieux, parce que finalement, un tel fait ci, l'autre du prêt-à-porter, l'autre, ils sont totalement différents. Et je suis sûre qu'on arrivera peut-être dans des locaux un peu grands à ça. Et je crois que c'est ça ce qui créera une vraie identité, puisque finalement, chacun va amener sa pierre à l'édifice et ça peut être très intéressant. C'est une autre forme de commerce, mais je crois que c'est celle vers quoi on tend et puis c'est celle dont on a envie. Parce que justement, tous les centres commerciaux, Internet, c'est le côté totalement, j'allais dire, impersonnel, même si, comme vous disiez tout à l'heure, ils vous appellent quand même pour vous demander... Bon, c'est un rapport humain aussi, d'une autre
force. C'est ce qu'on essaye de conserver, effectivement, parce que la taille le permet. Et c'est l'âme qu'on veut garder aussi sur l'entreprise, c'est ce côté, effectivement, ce contact humain. qui se perd effectivement avec le web où on est à travers, c'est un clavier et un écran. Donc,
mais c'est marrant parce que vous me disiez tout à l'heure que vous reconstituez, même au travers du web, vous reconstituez cette relation humaine.
On construit l'esprit de la boutique et le côté humain. Et quand on regarde un peu aujourd'hui, même les commentaires qui sont faits sur Facebook, sur le site, c'est ça, c'est que c'est une équipe chaleureuse, c'est des gens qui sont à l'écoute. On essaie de un client qui cherche un produit, si on ne l'a pas en boutique, certaines marques, on n'hésite même pas des fois à contacter d'autres vendeurs dans d'autres villes de France pour essayer de trouver le produit, lui racheter et satisfaire notre client. Donc c'est tout ça qui fait qu'effectivement ça fonctionne. Mais c'est effectivement beaucoup d'énergie. Clairement, c'est beaucoup d'énergie. Personnalisation de tous les mails, c'est-à-dire qu'on a aucun mail automatique. Chaque mail est une réponse précise à une cliente, avec sa propre formulation que vous n'allez pas retrouver sur un autre mail, avec des fautes aussi, peut-être des fautes. Mais voilà, c'est ce qui reste.
C'est la personnalisation.
Voilà, c'est la personnalisation de la relation client. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont, on le ressent nous aussi avec Carrel, les clients ont assez de ces centres-villes, enfin de ces centres-villes, quelle que soit la ville aujourd'hui de plus de 100 000 habitants que vous allez visiter, ils se ressemblent tous. On retrouve les mêmes chaînes, les mêmes noms, les mêmes franchises, avec le même accueil. Comment dire ? Marketé, et désimmunisé, formaté, sans conseil. Et aujourd'hui, effectivement, parfois même sans sourire, ou un sourire, on va dire, qui a été pareil marketé, qui est un peu obligatoire. Et ce côté humain, aujourd'hui, on sent que les clients ont envie de retrouver des boutiques où on s'occupe bien d'eux, où on les choye, on les aide à trouver, notamment dans le prêt-à-porter, les vêtements qui va leur aller. Leur dire aussi quand ça leur va pas, ça c'est aussi une différence qu'on essaie de faire avec une chaîne, c'est-à-dire que aujourd'hui Carrel, quand elle trouve que le vêtement ne va pas, elle va pas faire la vente, elle va dire écoute, moi je trouve que ça je vous le vends pas, vous allez pas le mettre, il va rester dans votre placard, il vaut mieux qu'il reste chez moi, qu'il fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Donc voilà, on n'est pas du tout sur une vente forcée, et ça surprend aujourd'hui le client, parce qu'il n'est plus du tout habitué à ça. Vous allez aujourd'hui chez un Zara, vous n'avez absolument aucun conseil de vente. Les jeunes qui sont là, qui ont des contrats de 25 heures à 800 euros par mois, ils font quoi ? Ils font que de plier des vêtements, quoi. Et ils n'ont surtout pas le temps de s'occuper de vous. Donc on voit bien aussi cette clientèle qui arrive chez nous, qui est complètement perdue, c'est-à-dire que elle part de cet habit de consommation dans les H&M, Zara, etc., qui a l'habitude de tirer en fait les fringues directement sur les
qui est étonné parfois qu'on lui dise ne serait-ce que bonjour. Qui se ferme.
Ou d'offrir un café, c'est-à-dire que nous on offre des cafés à nos clients. C'est le matin, elles arrivent, commencent à fouiller, est-ce qu'on peut vous offrir un café ? Et si elles s'en vont et qu'il n'y a pas eu un acte d'achat, bonne journée, belle journée, vous n'avez pas trouvé ça chez nous, on en oriente même vers nos confrères. C'est-à-dire que quand il y a vraiment une idée qui est précise dans l'achat pour un mariage, etc., on dit allez chez Intel, chez Pénélope, allez chez Mara, allez chez. On oriente les gens vers. Pour qu'il y ait une satisfaction et que le centre-ville soit attractif et qu'ils se disent en fait, à Carpentras, il y a des choses. Quoi. Et on peut trouver. Et ça, effectivement, ça surprend, parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, malheureusement, partout.
Oui, tout à fait. Voilà.
Et même sur le web, on le voit, certains clients qui passent des commandes, qui ont l'habitude de consommer sur le web, qui ont l'habitude d'avoir des réponses formatées, etc., qui peuvent être parfois agressifs sur un premier échange, parce que, d'habitude, ou ils n'ont pas de réponse, ou alors... ou à côté, etc. Souvent, ces gens-là, on les appelle. On fait la démarche d'appeler, leur expliquer pourquoi il peut y avoir un retard, leur expliquer différentes choses. Et ça les étonne toujours un peu. Et souvent, ça apaise, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas qu'un numéro et qu'il y a un réel échange qui se fait.
Alors, souvent, vous n'êtes pas chez Amazon ici. C'est une petite boutique. Ce qu'on offre aujourd'hui, c'est des produits qu'on aime, qui nous ressemblent.
Qui sont qualitatifs.
Ouais. Et à partir de là, en fait, vous créez une relation, une vraie relation avec une voix aussi, et puis un conseil personnalisé et du service.
Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment la plus-value, j'allais dire la plus-value humaine un peu. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans votre démarche, c'est qu'il y a, bien entendu, effectivement, ce travail sur l'accueil, sur l'identité, sur etc.
Mais moi, c'est vous êtes dans une spirale positive et on génère du positif, quoi. C'est ça aujourd'hui. Hein.
C'est
il faut générer, il faut cracher des plus, hein, parce que les moins, il y en a partout.
Ah, oui.
Donc, il faut cracher du plus, parce qu'il faut que les gens disent, putain, nous, ça nous arrive. Hein. Ah, je me sens bien dans votre boutique.
C'est ça, ben oui.
Je me sens bien chez vous, là. Ça m'a fait du bien. Ils repartent, ils sont apaisés. Et puis,
certaines même viennent, des fois, elles me disent, écoutez, aujourd'hui, je ne vais rien acheter. Mais je suis juste venue comme ça faire un tour, parce qu'à chaque fois, ça me fait du bien.
Mais oui, mais c'est ça. Mais oui, mais c'est ça.
Et pour nous, c'est du positif, même si derrière il n'y a pas un chiffre d'affaires, c'est un rendu qui a.
Voilà, ça nous fait du bien aussi.
Ça fait du bien aussi.
Absolument.
Ça nous fait du bien.
François Drapier, le co-gérant d'Impression Lin, avait dans une autre vie une autre activité. Il travaillait dans le domaine du marketing. Alors, est-ce que le marketing, ça peut servir à quelque chose, y compris pour un commerçant de proximité installé dans un petit centre-ville ou dans un village? Est-ce que ça coûte horriblement cher? Comment ça marche? Comment on peut s'en servir? Est-ce qu'il y a forcément besoin d'acheter un dictionnaire pour comprendre tout plein de gros mots?
Marketing, quoi, c'est mettre en place des actions pour définir les besoins de vos clients, les satisfaire, dans un outil, dans un besoin de rentabilité aussi pour l'entreprise.
Bien sûr.
Aujourd'hui, tout client, enfin tout commerçant est obligé de se remettre en question par rapport à son offre.
Ouais. Hein.
Aujourd'hui, qui sont mes clients, à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent en tant que produit, en tant que service. Et ça, c'est simplement juste le basique aujourd'hui pour un commerce.
Mais est-ce qu'on peut le faire sans dépenser des études à 200 000 euros?
Oui.
Ah oui, après ça devient juste du bon sens. Hein.
Ouais.
C'est juste du bon sens, c'est juste de l'écoute,
ouais.
C'est de l'empathie. Hein. Le terme de l'empathie est primordial aujourd'hui dans le commerce. C'est-à-dire que je me mets à la place du consommateur et je rentre dans le magasin et je me dis de quoi il a envie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend. Et à partir de là, ben, vous bâtissez une offre. Cette offre, évidemment, vous la faites aussi par rapport à un marché, c'est-à-dire qu'il y a un existant. Impression là, on ne veut pas que ça ressemble effectivement à retrouver les mêmes objets que de l'avoir chez justement
Nature et Découverte
et compagnie. Quoi. Donc effectivement, vous devez avoir un choix. Donc on va chercher des créateurs, que ce soit dans le prêt-à-porter, que ce soit dans la déco, des artisans, des créateurs, et des choses qu'on ne voit pas ailleurs.
Voilà.
Donc vous créez votre propre identité et une offre vraiment différenciée. Et ça, c'est important aujourd'hui aussi pour tout commerçant, c'est effectivement qu'ils définissent bien. Aujourd'hui, je travaille la marque A, la marque B, la marque C. Est-ce qu'elle répond à l'attente de mes clientes qui évoluent, quoi. J'ai des clients aujourd'hui, ces clients ont disparu, ont quitté ma boîte, ne viennent plus chez moi. Bah, pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que je propose ne leur convient plus? Et à partir de là, effectivement, on rebâtit son offre.
Complètement.
On n'est plus, du tout dans le j'achète pour revendre. C'est-à-dire, l'ancienne forme de commerce qui était l'achat pour la revente, c'est fini. S'il n'y a pas de valeur ajoutée.
Non, l'offre est tellement immense.
Immense qu'il faut une valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, un commerce qui ouvre et qui fait que de la revente, il a un peu de mal à survivre, je pense.
Ouais,
c'est plus.
Parce qu'il aura des concurrents sur le web,
bah oui,
il aura des concurrents dans la grande distribution qui seront dans des meilleures conditions, que lui.
En 2004, dans un petit village de 500 habitants, juste à côté de Mazan, de Mormoiron et de Ville-sur-Ozon, un petit village qui s'appelle Blovac, un village dans lequel il n'y avait plus aucun commerce depuis déjà plusieurs années, le maire, Max Raspail, a eu l'idée de réimplanter un commerce qui soit un commerce de proximité, mais aussi destiné au public des touristes et au public des visiteurs, de réimplanter un restaurant. Max Raspail est venu lors de cette première rencontre économique et gastronomique au Château Pesquier le 9 mai pour présenter un peu comment il a travaillé sur ce projet, comment il a réussi à faire revenir un commerce dans un petit, tout petit village du Vaucluse.
Ce département est resté, vous faites deux minutes, après je vous raconte l'histoire, mais a vécu longtemps sur un certain nombre d'acquis et que, à quelque part, je veux dire, on n'a pas senti arriver à un moment donné, je veux dire, les crises de l'agriculture qui se sont enchaînées les unes après les autres. Et là, il y a des gens qui se sont investis à un moment qui était parfois compliqué et qui a permis de de réévaluer tout ça dans notre territoire. Voilà, nous, on a simplement, moi j'ai créé un restaurant avec une vue magnifique pour ceux qui le connaissent et qui connaissent le village de Blovac. Vous savez, je veux dire, bon, ce village, moi quand je suis arrivé ici, puisque j'arrive un peu plus loin, encore plus déshérité que Blovac, du plateau d'Albion, et je suis parti au moment où il y avait des missiles, non, c'est pour faire rire, ça, mais voilà, donc je suis arrivé à Blovac, il y avait, j'ai triplé la population en ce temps que j'ai été élu, ça fait 34 ans que je suis élu dans cette commune, et voilà, donc une nuit, je me suis réveillé, parce que bon, ça c'est mon quotidien, hein. J'ai du mal à avoir des nuits en continu de sommeil, parce que, comme je l'ai dit, voilà, donc je me suis réveillé, j'ai dit, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je vais installer le village, faire ben, tout ce qui était nécessaire pour pouvoir bien fonctionner, les bâtiments et tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas, peut-être un restaurant, vous voyez, avec l'image du village, je veux dire, bon, le site, hein, qui est magnifique. Ben voilà, donc j'ai réfléchi à ça, et puis je me suis dit, avant de te laisser là-dedans, quand c'est un investissement important, il faut en trouver les moyens. Donc j'ai fait faire une étude par la Chambre de commerce, et effectivement, je veux dire, bon, ben, la Chambre de commerce m'a dit, effectivement, c'était une bonne opération et que c'était viable. Donc après, ben, je suis parti à la recherche des aides de l'État. Parce que bon, il y a des fonds d'accompagnement, hein, qu'on appelle ça le FISAC, pour la création des petites entreprises, des petits commerces dans le monde rural. Et donc, je suis parti là, à la recherche des subventions. Ça a pris un petit peu de temps, parce que bon, la commune qui a beaucoup d'habitants, forcément, il n'y a pas des moyens extraordinaires. Et puis, si je regarde les habitants, je suis obligé de faire attention à la fiscalité. C'est ce que j'ai fait quand même, malgré tout. Donc voilà, et l'étude de commerce. Et après, j'avais pas le terrain, j'avais rien, j'avais que l'idée. Hein. Et donc, j'ai regardé avec mes élus, mon conseil municipal, et j'ai échangé un terrain agricole avec un terrain de 600 mètres carrés pour pouvoir faire un restaurant. Enfin bon, je me suis débrouillé avec les moyens qu'on avait. Et j'ai voulu choisir un architecte, effectivement, un peu de bonne qualité. Donc j'ai fait un appel d'offres d'architecte, et puis on en a choisi un. Et l'architecte, j'avais eu des bons renseignements et tout ça, mais bon, il fallait trouver l'architecte aussi, qui me mette ça au cœur du village, ce bâtiment, et qu'on ait l'impression qu'il a toujours existé, quoi. C'était aussi un peu compliqué, donc on y a travaillé dessus, puis finalement on a une réussite, et... on a ouvert il y a une dizaine d'années maintenant, et ça fonctionne bien. C'est au cœur du village, ça permet effectivement d'avoir une vie au village. Ça fait, on est allé au troisième gérant, mais bon, vous savez, la vie, c'est parfois le commerce, c'est votre quotidien, hein. C'est parfois difficile, puis il y a le commerce, et puis après, il y a la vie personnelle, chacun aussi. Ce qui peut se passer là de cette affaire. Et aujourd'hui, ça a été repris depuis le début janvier, avec des gens qui se sont investis et qui marchent très bien, je veux dire, des gens qui ont envie de travailler, faire des choses, et je pense qu'ils vont réussir à en faire un lieu à la dimension du village. Je l'ai fait, je l'ai dimensionné parce que je ne voulais pas qu'on dénature le village. Je ne voulais pas faire un restaurant où il y avait des cas, tout ça. Je voulais qu'il soit un cas de vie, que les gens qui, comme je dis, qui allaient en donner, mais recevoir peut-être un petit moins. Un petit peu moins, mais avec une qualité de vie, puisque bon, j'ai tout compté quand même la location, ça, avec logement pour éventuellement, s'il le souhaite, le tout pour guère plus de 1000 euros quand même. Je veux dire, bon, il y a quand même avec tout l'équipement nécessaire qui a été. Ah oui, bon, voilà, on a voulu accueillir les gens pour qu'ils aient une réussite et un cadre de vie. Voilà un peu l'expérience. Après,
the lovers of the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with
Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Vous êtes bien sur RTVFM pour le sixième épisode de la quatrième saison d'Envie d'entreprendre. Ce dossier donc sur le commerce 2.0 est terminé. Vous pourrez bien entendu le réécouter à la fois sur rtvfm.net ou sur Jour 8. Nous allons poursuivre maintenant avec le dernier rendez-vous de cette émission, qui est la chronique de Mélanie Schex du cabinet Argonne.
Bonjour Mélanie, aujourd'hui nous allons, dans la continuité du thème abordé dans cette émission, parler de la réglementation de la vente sur Internet.
Bonjour Jean-Marc, effectivement aujourd'hui on aborde le problème du e-commerce et notamment des conditions générales de vente que devront mettre en place les commerçants en ligne.
Donc on va aborder plusieurs thèmes, il y en a 6 exactement. Le premier sur la protection des données personnelles.
Alors avant même de parler de la protection des données personnelles, on va introduire de ce que l'on appelle vente en ligne. Donc la vente en ligne, c'est toutes les activités de commerce sur Internet, la vente d'objets neufs ou d'occasion, ça on l'a tous en tête, mais aussi les prestations de services à distance, par exemple du dépannage informatique ou de la formation en ligne, et aussi les réservations d'hébergement, de transport et de réservation sur Internet. Donc pour la protection des données personnelles, tout site commercial qui collecte des informations nominatives, donc c'est-à-dire nom, numéro de téléphone, adresse email, pour faire des fichiers de prospection notamment, doit faire une déclaration à la CNIL, soit une déclaration simplifiée, soit une déclaration dite complète, selon le degré d'information recueillie, et notamment si elle porte atteinte aux libertés individuelles du consommateur. Pour faire cette déclaration, le commerçant doit quand même respecter un certain nombre d'obligations, notamment recueillir l'accord des clients pour la collecte de ces informations-là, les informer de leurs droits d'accès, de modification et de suppression de leurs informations collectées sur ces listes, veiller à la sécurité des systèmes d'information et à la confidentialité des données recueillies, et indiquer la durée de conservation des données.
Quand on propose un formulaire de contact, on est obligé de faire une déclaration CNIL également ?
Tout à fait. J'irai même plus loin. Lorsque l'on a dans ses bases de données une liste de clients ou une liste de collaborateurs avec leur numéro de téléphone, il faudrait théoriquement également faire une déclaration simplifiée à la CNIL.
Donc ça, c'est important parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sociétés qui le fassent. Deuxième point, le contrat de vente.
Alors, le contrat de vente, pour être conforme, doit respecter trois étapes obligatoires. La première, c'est de permettre à l'utilisateur de visualiser le détail de sa commande et le prix total. La deuxième étape, c'est de lui permettre de corriger d'éventuelles erreurs. Et la troisième étape, de confirmer la commande. Si ces trois étapes ne sont pas respectées, la vente n'est pas conforme. Pour respecter ces étapes, il y a différents moyens techniques à mettre en œuvre par le vendeur en ligne, notamment de permettre à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs et de les corriger, de pouvoir modifier les langues proposées dans la conclusion du contrat, de préciser les modalités d'archivage de la commande et de mettre à disposition les moyens de consulter les règles professionnelles et commerciales auxquelles le vendeur est soumis. S'il y a un échange, uniquement une vente par échange de courriel, d'email, ces conditions de vente ne sont pas
Et lorsqu'on choisit d'acheter quelque chose, il faut aussi le payer. Donc on passe aux moyens de paiement.
Pour les moyens de paiement, on a globalement la carte bleue, ça tout le monde s'en sert. Le porte-monnaie électronique, notamment les comptes PayPal. Éventuellement du paiement par SMS, du paiement par fournisseur d'accès à Internet, ça se fait de moins en moins. Et du paiement crypté si vraiment on met en place quelque chose de très complexe sur son site à distance. Restons sur le paiement par carte bleue qui est quand même le plus utilisé sur les sites à distance. Le e-commerçant se rapproche de sa banque ou d'une banque tierce pour mettre en place une solution de paiement par Internet et propose aux consommateurs de payer via sa carte, en notant généralement les numéros cryptés sur la carte avec le code d'identification au verso. Il faut savoir que l'e-commerçant est responsable de s'assurer que celui qui utilise la carte est bien le bénéficiaire de la carte. C'est dans ce cadre-là que les 3D Secure ont été mis en place pour permettre d'identifier via SMS, par exemple, que l'utilisateur de la carte est bien le titulaire de cette carte. Aujourd'hui, le consommateur est très protégé là-dessus, c'est-à-dire qu'en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, la banque est tenue par le code monétaire et financier de lui rembourser immédiatement les sommes qui ont été indûment débitées de son compte bancaire. Ce qui va se passer, c'est que la banque va essayer de se retourner contre le e-commerçant pour mettre en œuvre sa responsabilité, puisqu'il aurait dû s'assurer de cette responsabilité. Donc si la banque n'a pas demandé de contrat 3D Secure au départ, les jurisprudences vont plutôt dans le sens du e-commerçant en disant qu'il ne pouvait pas savoir que c'était pas le titulaire de la carte. Quand il y a un espace 3D Secure, s'il y a eu fraude, le e-commerçant est souvent responsable et condamné.
On a acheté son produit, on l'a payé et maintenant on attend la livraison.
Au niveau de la livraison, le e-commerçant est dans l'obligation de fournir au moment de la commande le délai de livraison qui sera imparti. Il doit être au maximum de 30 jours à partir de la date de commande. Sans mention sur le contrat de la date de livraison, le bien est réputé devant être livré dès la conclusion du contrat. En cas de retard de livraison, le fournisseur doit informer le client qui peut demander à être remboursé dans les 30 jours qui suivent le paiement. Le remboursement doit se faire en totalité, y compris les frais de réexpédition si le colis arrive après la demande de rétractation. Le client, lui, n'est pas obligé d'accepter des modalités de remboursement équivalentes, genre par avoir sur le site ou par emplacement de produit. Il peut exiger le remboursement total.
J'ai choisi un produit et puis finalement, soit il ne me plaît pas, soit j'ai changé d'avis. Comment est-ce qu'on peut fonctionner ?
Comme pour tous les consommateurs de vente par correspondance, l'acheteur a un droit de rétractation de 14 jours à partir du lendemain où il entre en possession du bien, donc c'est-à-dire après la livraison. Il n'a pas à fournir de justification ni à payer des pénalités pour sa part. Les seuls frais qui peuvent lui être imputés, c'est les frais de retour au vendeur. Ce droit de rétractation s'applique aussi sur les produits soldés, d'occasion ou de déstockage. Il y a certaines exceptions cependant, il faut qu'elles soient clairement signalées au moment de l'achat et elles peuvent s'appliquer si le bien a été confectionné spécialement pour le consommateur sur mesure, si le bien n'est pas de nature à être réexpédié, beaucoup trop lourd ou trop liquide par exemple, si le produit est périssable, ou s'il s'agit de cassettes, CD ou DVD qui ont été ouverts par le consommateur. Ça s'applique également, cette exception, pour tous les articles de presse, puisque puisqu'ils sont destinés à pouvoir être lus, et les prestations d'hébergement, de transport ou de restauration, puisqu'il n'y a pas d'objet à renvoyer.
J'ai décidé d'appliquer mon droit de rétractation et de renvoi du produit que j'ai acheté. Comment est-ce que cela fonctionne?
Alors, il y a un retour du produit. Alors, le retour du produit peut s'opérer dans le droit de rétractation ou en dehors du droit de rétractation. J'ai passé les 14 jours, le produit n'est pas conforme à la commande, je veux le renvoyer. Le vendeur est obligé de me le reprendre, uniquement s'il n'est pas conforme ou s'il présente un défaut d'aspect. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur. Ils peuvent être conventionnellement pris en charge par le vendeur, mais la loi impose que ce soit à la charge de l'acheteur au départ. Et si le défaut ou l'absence de conformité a créé un préjudice à l'acheteur, on peut éventuellement demander des dommages et intérêts. Il faudra quand même prouver que la faute provient du vendeur et que le préjudice est directement induit par cette faute.
Très bien, je pense qu'on a fait un tour intéressant du e-commerce. Je pense qu'il y a des informations qui vont servir à la fois pour les acheteurs et des informations qui vont aussi servir à tous les professionnels qui ont des sites internet et qui doivent probablement se mettre à jour. Merci beaucoup Mélanie.
Bien, voilà ce dernier épisode, ce sixième épisode, on va dire, de la quatrième saison d'Envie d'entreprendre se dirige vers la fin. Le prochain épisode, qui sera le septième et qui sera le dernier de la saison, aura lieu en direct. Il aura lieu en direct, justement, lors des rencontres économiques et gastronomiques, et celle qui aura lieu le mardi 27 juin à 19h. Alors, on va décaler d'une demi-heure pour cette fois. Donc toujours au Château Pesquier, le thème de cette rencontre sera « Quel tourisme au pied du Ventoux ?». On va y découvrir un peu les dessous du nouvel office intercommunal de tourisme. On va aussi rencontrer plusieurs entrepreneurs du monde du tourisme, des gens qui tiennent soit des mini-parcs de loisirs, soit des systèmes, des lieux d'accueil pour des tourismes spécialisés, sur le vélo par exemple. On va aussi peut-être y rencontrer ce qu'on appelle des agences réceptives, c'est-à-dire des agences qui organisent des activités pour les touristes dans le Ventoux. Je vous donne donc rendez-vous le 27 juin. Merci, à bientôt.
Envie d'entreprendre, l'actualité de l'économie locale avec jour8.com.